Voilà. Good afternoon. J'espère que vous avez tous pu faire la sieste. Bon, écoutez, si je vois certains d'entre vous s'endormir, je ferai comme l'abbé Poemen. Je ne vous en voudrai pas. Donc, sentez-vous en paix. Vous avez d'ailleurs toutes les circonstances atténuantes puisqu'on a l'occasion de vivre en live l'effet de serre dans cette salle. Peut-être que ce que je vous propose, comme ce matin avant la conférence du Père Lorenz, c'est peut-être juste de prendre un court instant de silence, de méditation pour nous recentrer. J'aurais envie de dire... Pour inscrire la croix dans notre corps, la croix dans notre être. Alors la croix, bon, pas comme instrument de torture, même si parfois une séance de méditation peut être une forme de torture, mais vraiment la croix comme justement ce lieu qui est en fait centré sur le cœur, et le cœur où justement qui est le lieu de l'intersection entre l'axe vertical qui relie la terre et le ciel, et l'axe horizontal qui, comme les bras du Christ, en fait, embrasse toute l'humanité et toute la création. Voilà. Pour situer mon propos de cet après-midi, je vais faire un très très bref résumé de ce que j'ai dit hier soir, avec deux échos, résonance avec ce que le Père Lorenz a dit ce matin. Je pense que c'est bien justement aussi que l'on fasse un peu le lien entre les différentes interventions. Donc hier, dans un premier temps, j'ai parlé de l'éco-spiritualité comme une expérience de conscience, une expérience de lucidité, par rapport à la nature, de la crise écologique, à son sens, à ses racines, par rapport aussi aux limites de l'écologie extérieure. Et par rapport à ça, j'aimerais revenir sur quelque chose qui me paraît très important, c'est cette tension que le Père Lorenz a évoquée ce matin entre, d'un côté, le pessimisme et, de l'autre côté, l'espérance. Alors, c'est vrai que la lucidité, dans ma perspective, elle est intégré dans ce que j'appelle un triangle, le triangle de la lucidité, de l'espérance et de la foi. Parce que la lucidité toute seule, ça peut être très décourageant. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui sont un peu découragées par rapport à tous les enjeux liés à la globalisation, liés à l'écologie, des enjeux très complexes, des enjeux tellement vastes que, en fait, effectivement, on peut se sentir, à juste titre, un peu impuissant et puis se dire finalement, on va s'en remettre aux experts, avec tous les problèmes que ça pose en termes de démocratie. Donc je pense qu'il faut compléter la lucidité par l'espérance. Alors, pour moi, l'espérance, c'est pas la même chose que l'espoir. Et c'est pas la même chose que l'optimisme. L'espoir, c'est fonction d'une intervention ou de quelque chose qui est extérieur. Aujourd'hui, le pape François est un espoir pour l'Église et pour le monde. Les héros dont le Père Lorenz a parlé ce matin, les héros américains à la fin des films catastrophes, sont des espoirs par rapport à ces films. L'espérance, elle est dans notre ordre. L'espérance, elle naît d'un processus d'accomplissement intérieur, de ce processus d'unification, de recentrage sur le cœur, à partir duquel, précisément, va naître l'élan, va naître le courage pour faire advenir ce qui n'est pas encore advenu et pour accomplir ce qui n'est pas encore accompli. L'espérance, c'est aussi autre chose que l'optimisme. L'optimiste, il dit, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Donc là-dedans, il y a de nouveau quelque chose d'extérieur, et puis c'est une forme de passif impersonnel. L'espérant, il dit, là où je suis, je peux quelque chose. Évidemment, je peux quelque chose, non pas uniquement avec ma, dans une perspective éco-spirituelle, avec ma volonté propre, avec l'ego, comment, qui veut, etc., mais dans ce que l'apôtre Paul appelle justement la synergie. La synergie entre la volonté divine et la volonté humaine. Entre, j'aurais envie de dire, les énergies divines et l'énergie humaine. Hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement que c'est l'ego ou le moi qui « je » qui agit, mais c'est de créer cet espace à l'intérieur où quelqu'un, une énergie, l'esprit plus grand que nous, va pouvoir agir. C'est très intéressant dans la liturgie orthodoxe. Avant la bénédiction initiale, il y a un petit dialogue entre le prêtre et le diacre. Et dans ce dialogue, le prêtre dit, et c'est vraiment le début de la liturgie, « Il est temps pour le Seigneur d'agir ». Donc la liturgie, c'est « on est agi ». Et je crois que c'est quelque chose qui vaut aussi pour notre engagement et notre vie quotidienne. Et puis dans ce triangle, il y a la foi. La foi qui justement permet de faire le lien entre la lucidité et l'espérance. Et la foi, et là je partage tout à fait la vision du Père Lawrence, dont j'ai lu quelques textes avant de venir, la foi ce n'est pas un système de croyances, de dogmes, de doctrines. La foi c'est le fruit d'une expérience. C'est le fruit de cette expérience de la réalité ultime qui pour nous chrétiens s'est incarnée pleinement dans la figure de Jésus-Christ, incarnation d'ailleurs qui n'épuise pas toutes les manifestations du Verbe dans l'histoire et dans le monde. Et donc c'est le fruit de cette expérience de la réalité ultime, qui est d'ailleurs au-delà de tous les noms, et justement qui est en fait une expérience de vie avec un grand V, une vie plus forte, plus grande, plus forte que la mort, et donc qui de nouveau nous donne cette confiance et ce courage pour aller de l'avant. Hier soir, ensuite, après avoir défini l'éco-spiritualité comme exercice de lucidité, j'ai esquissé quelques chemins pour quelques éléments, en fait, pour un chemin pour sortir du dualisme. Hein, ce dualisme hérité de la modernité, pour en fait sortir de ce processus, de ce mécanisme réductionniste qui est à l'œuvre depuis 4 siècles, et que je pourrais définir en le synthétisant de la manière suivante. On est passé, en fait, on a réduit l'invisible au visible, on a réduit ensuite le visible au matériel, on a réduit le matériel à l'économique, et aujourd'hui on a réduit l'économique au financier. Et là vous avez en fait un processus qui aboutit à cette crise financière économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à cette marchandisation du monde, marchandisation de la nature, marchandisation des êtres humains. Et par rapport à ça, en complément de ce qu'a dit ce matin le Père Lawrence sur la violence, il y a une violence qui est liée à la globalisation économique. Cette violence, elle n'est pas seulement physique ou militaire, et peut-être qu'effectivement, il y a en ce moment une forme de paix dans l'Union européenne liée à l'euro, mais il faut voir que derrière cette paix, il y a une guerre économique qui se joue. Une guerre économique au niveau mondial et qui fait un très très grand nombre de victimes et qui a de très nombreux champs de bataille et des victimes justement peut-être moins visibles que celles des champs de bataille de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, dans cette esquisse de chemin pour sortir du dualisme, j'ai mentionné quelques éléments pour redonner à la création, création non humaine et humaine, justement sa dimension de mystère, sa dimension de plénitude habitée par le divin. Et l'enjeu, et c'est le thème de cette intervention de cet après-midi, eh bien l'enjeu c'est précisément que cette vision qu'on a esquissée hier, vision non réductionniste, cette vision de la création comme mystère, cette vision de cette unité et interdépendance profonde entre le divin, l'humain et le cosmique, cette vision de l'être humain comme pont entre la terre et le ciel, et bien que cela ne reste pas simplement une belle théorie, de belles idées, mais que on puisse, mais qu'elle s'incarne dans notre vie, qu'elle s'incarne dans toutes les dimensions de notre existence. Et pour cela, cela suppose une transformation intérieure, un travail de transformation intérieure. Et là, ma vieille obsession trinitaire, j'aimerais mentionner trois éléments en lien direct avec la question de l'écologie. Le premier élément, qui sont tous des éléments d'ailleurs qui sont tirés de la tradition des pères, tradition patristique, tradition ascétique. Le premier élément, c'est ce qu'on pourrait appeler le bon usage, ou l'usage écologique des facultés, de nos facultés liées à l'image de Dieu en nous. Le deuxième élément, ça sera d'aller explorer la gestion de notre cosmos intérieur. Et le troisième élément, non, le deuxième élément, pardon, c'était le changement du mode de connaissance, et le troisième élément, ce sera la transformation de notre cosmos intérieur. Premier point, l'usage des facultés liées à l'image de Dieu en nous. J'ai mentionné hier, c'était une des différences, justement, enfin, une des spécificités de la création de l'être humain, qui est créé corps, âme et esprit, mais qui est aussi créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, il y a eu des bibliothèques entières qui ont été écrites sur c'est quoi cette image de Dieu en l'homme. Alors, en résumé, il y a, chez les pères de l'Église, je dirais, trois éléments qui ressortent très souvent. D'une part, c'est la liberté, capacité d'autodétermination de l'être humain. D'autre part, c'est son pouvoir créateur. Nous sommes créés à l'image d'un Dieu créateur et nous avons en nous une capacité créatrice, un génie créateur extraordinaire qui a d'ailleurs aussi conduit à la création de toutes ces technologies que le père Lawrence a évoquées ce matin. Et puis troisièmement, eh bien, c'est notre capacité rationnelle, notre raison. Alors la grande question par rapport à l'écologie, c'est quel usage on va faire de ces facultés ? Quel usage on va faire de ces facultés ? Est-ce qu'on va en user dans une logique, j'aurais envie de dire, de séparation ou dans une dynamique de communion ? Dans une logique de consommation ou dans une logique de sobriété ? Dans une logique où on va en fait asservir la nature ? Ou dans une logique où on va servir la nature, hein. On va travailler la transfiguration du monde ou à sa défiguration. Donc là, on est devant un choix. On est devant un choix, je reviens à cette question du choix, et de ce choix, nous avons à répondre. Et répondre, précisément, c'est la base de la responsabilité. Deuxième élément de transformation intérieure, notre mode de connaissance. Un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Edgar Morin, sans doute nombreux parmi vous ont en tout cas lu ou entendu Edgar Morin. Edgar Morin, il dit que, il montre en fait comment les sociétés, mais aussi comment l'approche de l'écologie, se structure en fonction d'un mode de connaissance. Et dans ce sens-là, je dirais que la crise écologique, c'est pas simplement une tragédie théologique, j'ai dit hier, donc avec cette séparation entre le divin et le cosmique, ce n'est pas simplement une tragédie anthropologique, avec le réductionnisme de l'être humain, corps, âme, esprit, un composé psychosomatique, et avec une séparation entre l'être humain et la nature, mais c'est aussi, dans ce sens, on pourrait dire, une tragédie épistémologique. Alors, depuis la fameuse modernité occidentale, à partir de la fin du XVe siècle, qui est un moment de cristallisation, eh bien je dirais que l'Occident peu à peu a dérivé dans ce qu'on peut appeler le rationalisme. Alors, le rationalisme, au fond, on pourrait dire que c'est une exaltation de la raison comme organe souverain de la connaissance. C'est le fameux « je pense, donc je suis » de Descartes. Hein. Et justement, une faculté, une raison qui va être clôturée dans le mental. Hein. Donc une raison qui tourne sur elle-même et qui est donc en fait déconnectée du reste de l'être et en particulier déconnectée du cœur. C'est ça le rationalisme. C'est pas du tout un discours contre la raison puisqu'elle fait partie de l'image de Dieu, mais c'est cette raison qui s'autonomise et qui se coupe du centre de l'être et du cœur. Et on voit bien cela avec vous savez, le célèbre penseur de Rodin. Hein. Si vous regardez cette sculpture de Rodin, vous voyez ce pauvre penseur, d'abord qui est dans une position complètement contorsionnée, il a l'air d'être torturé, souffrant, et il porte cette tête qui a l'air de peser des tonnes. Hein. Le centre de gravité est complètement là. Et si vous opposez l'image du penseur de Rodin à des figures, soit de Christ roman, soit à des figures de sages en méditation, eh bien là, vous avez effectivement tout à fait autre chose. Vous avez des êtres qui sont ancrés dans leur hara et centrés sur leur cœur, hein, dans cette verticale entre la terre et le ciel. Donc, voilà, si on veut, dans ce processus de transformation, accéder à cette perception qui est la base d'une éco-spiritualité, justement, du mystère de la création, eh bien, l'une des clés, c'est de transformer notre mode de connaissance. Et par rapport à ça, il y a une citation de Nicolas Berdiaev, qui est un philosophe religieux russe du XXe siècle, que j'aime beaucoup. Et je vais juste vous lire cette citation, parce que je trouve qu'elle est extrêmement parlante par rapport à ça. Voilà ce qu'il écrit, dans un livre magnifique que je vous recommande, qui s'appelle « Esprit et liberté ». Je passe par la vie de ce monde, mon regard tourné vers ses profondeurs. Partout j'effleure des mystères et j'entrevois des lueurs provenant d'autres mondes. Rien n'est achevé dans ce monde. Il est translucide, ses limites s'écartent. Il pénètre dans d'autres mondes et d'autres mondes pénètrent en lui. Tout l'univers naturel et historique est absorbé par la profondeur de l'esprit où il acquiert un autre sens. Je crois que là, on a vraiment le programme au niveau du mode de connaissance de l'éco-spiritualité. Vous savez, dans la tradition, on parle souvent de quatre intelligences. Alors, il y a l'intelligence corporelle. Les quatre sont très importantes. Il y a l'intelligence corporelle, c'est la connaissance par notre corps, par les sens. Vous avez une intelligence émotionnelle. Vous avez une intelligence rationnelle, par l'usage de notre raison. Et puis, vous avez une intelligence, alors on peut lui donner toutes sortes de noms, symbolique, mystique, contemplative, noétique, en lien avec le nous, l'esprit dont j'ai parlé hier. Alors je crois que l'enjeu par rapport à l'acquisition d'un nouveau mode de connaissance, c'est d'arriver vers un mode de connaissance, j'aurais envie de dire, intégral, qui relie et qui intègre ces quatre intelligences, hein, mais évidemment, qui les relie en les reliant précisément au cœur, qui est le centre du centre de notre être. Et ça passe par la redécouverte, par l'éveil, par la culture de cette intelligence spirituelle, contemplative, dont je pense que l'Occident a pour une grande part perdu les clés. Et cette intelligence-là, intelligence contemplative, mystique, qui est au fond ce vers quoi l'on tend à travers l'exercice de la méditation, c'est une connaissance qui est non-dualiste. Nous sommes au-delà de la séparation entre un sujet connaissant et un objet connu. C'est une connaissance qui est globale, je dirais holistique, par rapport à une connaissance fragmentée, parcellaire. C'est une connaissance aussi qui est paradoxale ou antinomique, par opposition à la logique rationnelle, coutumière, celle d'Aristote, qui est la logique de non-contradiction. Pour Aristote, une chose ne peut pas être une chose et son contraire. Et cette intelligence-là montre précisément, parce qu'elle est antinomique, la complexité. Et vous savez, les dogmes chrétiens sont en fait des antinomies. Nous avons Jésus-Christ qui est vrai homme et vrai Dieu. Nous avons un Dieu en trois personnes, un en trois personnes. Comment, rationnellement, vous pouvez comprendre ça? Donc les dogmes, ce n'est pas simplement des doctrines qu'on doit brandir pour traiter les autres d'hérétiques, mais en réalité, ils sont là précisément pour nous aider à faire un saut de conscience pour justement sortir en fait du dualisme. Les dogmes, en réalité, c'est une tentative, une approximation de saisir un mystère, mais surtout pour permettre à l'être humain de passer à un autre niveau de conscience. Et cette connaissance, elle est aussi immédiate, hein, elle est par illumination, elle est par participation, par opposition à une connaissance réflexive, justement, de la raison discursive. Donc on est bien dans une connaissance qui est connaissance. Hein. On est avec ce qui est à connaître. Et c'est toute la différence entre le savoir sûr et la connaissance de. Le père Sophronie, qui a été mon père spirituel, il recevait beaucoup de théologiens qui venaient le visiter et il se moquait toujours d'eux. Il disait, ouais, vous dans les académies, dans les facultés de théologie, il rigolait, il disait, vous tournez autour du pot. Parce que précisément, sur les bancs d'école, on acquiert un savoir sûr et pas forcément une connaissance d'eux. Donc, usage des facultés liées à l'image de Dieu en nous, nouveau mode de connaissance, et troisièmement, travailler notre cosmos intérieur. Hier, j'ai évoqué cette unité, on pourrait dire ontologique, donc fondée dans l'être, entre l'être humain et la nature, avec toutes les interdépendances qui en découlent. Et donc, ça signifie aussi que une bonne partie des déséquilibres écologiques, des maux dont souffrent les écosystèmes, sont une forme d'objectivation de déséquilibre intérieur à l'être humain. Et là, on peut relire, faire une relecture, j'aurais envie de dire, un peu contemplative et spirituelle, un peu à la manière dont Annick de Souzenel le fait. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Annick de Souzenel et l'ont lu. Alors, c'est une approche, justement, une interprétation symbolique à travers les lettres hébraïques, mais que je trouve extrêmement éclairante par rapport au texte biblique. Et dans cette perspective-là, on voit bien, par exemple, si on prend ce fameux verset de la Genèse où Dieu dit à l'homme qu'il doit garder et cultiver ou servir, selon les traductions, le jardin d'Éden. Eh bien, en fait, ce jardin qui est à garder et qui est à servir, ce n'est pas simplement le jardin extérieur. Bien sûr, on peut l'interpréter comme étant le jardin extérieur, le jardin de la création. Mais c'est aussi le jardin intérieur. C'est aussi le cosmos intérieur. Si nous voulons être des gérants responsables de la création et de la nature, eh bien nous devons aussi être des gérants responsables de notre cosmos intérieur. Et vous savez bien que notre cosmos intérieur, il est habité par pas mal d'animaux sauvages, de bêtes sauvages, hein, une série de pulsions, plus ou moins inconscientes, d'énergie, de forces parfois incontrôlées, et qui sont d'ailleurs toutes ces énergies, toutes ces forces, qui sont justement celles qui sont utilisées par le marché, justement, pour faire de nous des bons homo economicus et consommateurs. Donc il y a là, je pense, principalement deux champs intérieurs qui sont à travailler et à transformer. D'une part, notre puissance de désir, et d'autre part, nos peurs. Alors, ces deux champs, ils sont très importants parce que je pense que c'est véritablement dans ces champs-là, au niveau de leur pertinence écologique, c'est dans ces champs-là que précisément se joue notre participation, notre complicité, j'aurais envie de dire, mais souvent inconsciente à notre insu, notre complicité et participation au mécanisme économique, au mécanisme de ce système CPC qui détruit la planète, parce qu'en réalité, ce sont les ressorts les plus intimes de notre être, mais qui sont instrumentalisés, qui sont manipulés, qui sont rendus captifs par le marché. Premier champ, la puissance de désir. Pour les pères de l'Église, il suffit, je pense en particulier à Grégoire de Nice, un père du IVe siècle, cette puissance de désir, elle est partie intégrante de l'image de Dieu en nous. Donc c'est quelque chose de très très positif. Il le dit d'ailleurs au souffle de l'Esprit-Saint qui est donc insufflé justement dans les narines de l'homme pour en faire un être vivant. Et cette puissance de désir, eh bien elle est à la source même de nos aspirations les plus nobles et les plus hautes. C'est celle qui nous fait désirer, aspirer à la beauté, à la justice, à la spiritualité, à la contemplation, à la plénitude. Et d'ailleurs, les pères disent qu'en réalité, derrière tout désir, avec un petit d, se cache un désir, avec un grand D, qui est le désir de Dieu. Alors le désir de Dieu, dans le sens le désir pour Dieu, qui est en réalité une réponse au désir de Dieu envers nous. Donc, dans cette approche-là, si vous voulez, étant donné la racine, j'aurais envie de dire, transcendante du désir, liée à l'image de Dieu en nous, eh bien, ce désir, il est par essence, par définition, infini et insatiable. Et on le voit bien, et il est insatiable, c'est-à-dire en réalité que seule la grâce de l'Esprit-Saint peut le combler. On le voit bien dans le récit de Christ avec la Samaritaine. Hein. Et puis, à un moment donné, il nous dit, mais moi je vais vous donner justement une eau vive avec, par laquelle vous n'aurez plus jamais soif. Et donc, étant donné cette dimension infinie, transcendant du désir, vouloir satisfaire ce désir par des biens matériels ou par des agréments psychiques qui sont forcément limités, qui sont forcément relatifs, eh bien c'est une grande illusion. Et ça revient d'ailleurs à désorienter et à éparpiller complètement cette énergie fondamentale du désir, au risque d'ailleurs, disent les pères, de la transformer en passion dont nous allons être plus ou moins possédés à travers d'ailleurs aujourd'hui toute une série de formes d'addiction. Et tout ce système croissanciste, productiviste, consumériste dont j'ai parlé, en réalité, il repose sur cette illusion. À travers notamment la publicité, en fait, il s'ingénie à détourner ce désir avec un grand D, qui est en réalité un désir d'absolu, à le détourner et à le dégrader en envie, des envies de consommation. Et alors c'est là où ça devient encore plus pervers et subtil. Il fait passer ses envies pour des besoins. Hein, des besoins dont il dit que le marché, évidemment, pourra satisfaire. Et ce faisant, eh bien, il entretient un cercle de frustration, insatisfaction permanente qui fait précisément tourner et fonctionner la machine. Et cela, au grand dam, évidemment, de la planète. Et là, je me permettrai de citer Gandhi. Et Gandhi qui disait, il y a assez de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tous, mais pas assez pour répondre aux convoitises et envies de possession de chacun. Alors ce processus que je viens de décrire, ce n'est pas une fatalité. Hein. Je veux dire, il est possible de faire un travail intérieur pour s'en libérer. C'est un travail de conscience qui passe justement par le fait de descendre au plus profond de nous-mêmes, pour aller rencontrer et pour aller nommer. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu demande à l'homme de nommer les animaux. Alors là aussi, il y a différentes interprétations possibles, mais d'une des interprétations, nommer ces animaux, c'est en prendre conscience. Et si on parle de notre jardin intérieur, c'est justement aller nommer, donc prendre conscience de ces bêtes sauvages qui sont en nous, pour précisément en réorienter l'énergie. Deuxièmement, donc travail de conscience, ensuite travail de discernement. Discernement de ce qui est de l'ordre de vrais besoins et ce qui est de l'ordre de besoins, d'envie formatée et manipulée par le marché. Et puis je dirais que troisièmement, c'est recentrer cette puissance de désir, justement la recentrer en la reliant à sa source, qui est en fait la source de notre être. Donc en fait, en la réorientant, et donc par la même, en la libérant de ce qui la rend captive et de facto aliénée. Donc voilà ce premier champ. Hein, vous voyez, là, on peut vraiment mettre en application, finalement, toute une tradition ascétique extrêmement ancienne avec les processus économiques d'aujourd'hui. Le deuxième champ, c'est la peur. Bon, la peur, évidemment, c'est un des affects fondamentaux de notre humanité, et c'est d'ailleurs souvent aussi l'une des principales sources d'aliénation et d'emprisonnement de l'être humain. Et tout ce système économique CPC, en réalité, il repose sur l'angoisse. Quelle angoisse? Eh bien, l'angoisse du manque, la peur de manquer, qui est en réalité une expression de la peur de mourir. Derrière, c'est la peur de mourir. Et donc, en réalité, derrière cette angoisse de manquer, c'est aussi une expression de du refus de notre finitude. Et cette angoisse de manquer, elle est profondément enracinée dans nos psychés, parce que c'est vrai que nous avons vécu pendant des siècles, en fait, dans des siècles de lutte économique contre la pénurie. Alors, il y a encore des parties du monde qui doivent lutter contre des formes de pénurie. Ce n'est pas vraiment le cas pour le moment de nos sociétés, au niveau matériel. Et d'ailleurs, cette logique, donc nous restons, alors même que nous sommes dans une abondance de biens matériels, nous continuons psychiquement à fonctionner dans une mentalité, une logique de rareté. Et d'ailleurs, avec, lié à ça, des formes, ça génère aussi une peur de l'autre. Parce que l'autre, c'est le rival, celui qui peut-être, évidemment, va pouvoir nous prendre. D'où, évidemment, et c'est là où le système nous dit, eh bien, le système économique capitaliste, il se présente finalement comme une forme d'antidote à cette angoisse, à travers, d'une part, les vertus de la croissance, qu'on nous présente comme infinie, et d'autre part, à travers l'accumulation. Toute la logique du système fonctionne sur l'accumulation. Il faut accumuler, accumuler, et ça apparaît comme une forme de réponse à cette angoisse. Et on voit bien en réalité que, de facto, ce sont des fausses sécurités, et qu'en réalité, ça résout moins les angoisses que ça les entretient et que ça les alimente. Et là aussi, je crois qu'il y a la possibilité de faire un travail intérieur pour se libérer de ce cercle de la peur, de l'angoisse dont nous sommes prisonniers. Alors à nouveau, c'est un travail de conscience, un travail de lucidité, par rapport aux mécanismes économiques, parce que c'est important aussi de bien les comprendre, parce que nous sommes dans ce système, et ce système, comme je l'ai dit hier, il vit en nous, et aussi de prendre conscience justement des ressorts intimes par lesquels ce système vit à l'intérieur de nous, et ça suppose en particulier de nous affranchir des illusions de bonheur à travers l'accumulation de biens matériels. Et pour cela, eh bien, il faut descendre à la racine des angoisses. Évidemment, c'est le chemin spirituel, ça veut aussi dire, c'est parce que c'est le chemin de l'humilité. Je pense que le christianisme repose évidemment d'un côté sur l'amour et la compassion, et de l'autre côté sur l'humilité. C'est un chemin d'humilité qui est simplement de l'acceptation de nos limites et de l'acceptation de notre finitude. Et cela passe par, j'aurais envie de dire, une métanoïa, c'est-à-dire un passage justement d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance. Mentalité d'abondance. Alors, mentalité de rareté liée évidemment à l'avoir, pour une mentalité d'abondance de l'être et de la vie. Cette parole du Christ, je suis venu vous donner la vie en abondance. Et cette abondance-là, elle n'est pas à conquérir, elle n'est pas achetable, elle est simplement à découvrir parce qu'elle est en réalité déjà là, et elle est déjà là en nous, et elle est offerte en permanence, elle est donnée. Et je crois que la meilleure réponse à la peur, et c'est tout le message de l'Évangile, combien de fois le Christ dit à ses disciples « n'ayez pas peur », eh bien c'est justement la foi, c'est la confiance, c'est-à-dire la foi dans une vie avec un grand B, une vie plus grande et plus forte que la mort, qui est précisément cette vie qui est offerte par le Christ ressuscité, qui est une vie qui est évidemment plus grande que la vie biologique, parce qu'elle est précisément reliée à ce qui la dépasse, elle est reliée au divin, elle est innervée, j'aurais envie de dire, par ces énergies divines dont j'ai parlé hier. Donc voilà ces trois piliers d'un travail de transformation intérieure, bon usage de nos facultés, nouveaux modes de connaissance, travail sur notre cosmos intérieur. Et de ça, je pense, peut naître d'autres relations à la nature, d'autres relations entre l'être humain et la création. C'est-à-dire, au fond, j'aurais envie de dire, d'autres manières humaines, pleinement humaines, donc divino-humaine, pour reprendre une expression de Nicolas Berdiaev, donc manière divino-humaine d'habiter la création justement comme notre propre maison, mais aussi comme la maison du divin, en se laissant habiter précisément par le Logos et les énergies divines qui habitent la création. Et de cela découlent différentes attitudes spirituelles qui sont pour moi fondamentales qui sont en réalité résumées dans les béatitudes. Je pense qu'on pourrait faire des béatitudes une forme de programme éco-spirituel. L'humilité, la pauvreté, la miséricorde, la douceur, hein, bienheureux les doux, car ils recevront la terre en héritage, la compassion, et donc qui sont au centre d'attitudes spirituelles qui justement expriment une relation réenchantée à la création. Et pour moi, les béatitudes, ce sont des expressions, en réalité, de qualité, j'aurais envie de dire, féminine. Hier soir, à l'issue de ma conférence, une des participantes m'a justement fait remarquer que je n'avais pas parlé du patriarcat et de cette dimension-là. Elle est évidemment essentielle. Si l'on parle de la modernité comme moment de cristallisation pour ces dualismes qui ont conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien, une des dimensions de cette modernité, ça a été aussi le triomphe d'une forme de valeur patriarcale. Parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, et d'ailleurs le christianisme et l'Église n'y sont pas complètement étrangers, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça n'a pas seulement été la perte de la terre-mère, mais ça a été aussi justement la montée en puissance des valeurs, des qualités, j'aurais plutôt envie de dire, des qualités masculines, et aussi, et qui s'est notamment aussi manifesté par la persécution des sorcières. Des milliers de sorcières qui ont été persécutées pendant un siècle. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que les raisons pour lesquelles on les persécutait étaient des pures constructions imaginaires, mais en réalité, nombre de ces sorcières étaient simplement des femmes qui avaient une grande connaissance des pouvoirs, notamment guérisseurs de la nature, et qui avaient quasiment une dimension de chamane. Alors ces qualités féminines, eh bien c'est justement l'accueil par rapport à la conquête, c'est l'intuition par rapport à la raison, c'est la coopération par rapport à la compétition, l'écoute, le dialogue par rapport à la domination, le sens du concret par rapport à l'abstraction, etc. Alors je parle de qualités féminines parce qu'évidemment les qualités masculines et les qualités féminines, elles existent à l'intérieur de tout être. Il ne s'agit pas d'opposer l'homme et la femme au niveau sexuel. Et il ne s'agit pas non plus, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Moi, j'aime bien parler des qualités féminines, des qualités masculines, un peu comme le yin et le yang. Je pense qu'on a besoin des deux. Et en réalité, il s'agit d'entrer dans une danse, hein, une danse du féminin et du masculin. Alors, opérer cette transformation intérieure, c'est évidemment un long chemin. C'est l'œuvre de toute une existence. Et les chemins pour la réaliser sont multiples. Il n'y a pas un chemin qui serait le chemin qui atteindrait la vérité de cette transformation. Simplement, ce qu'on peut dire, quels que soient les chemins, je pense qu'on peut dire que la bonne volonté et les bons sentiments ne suffisent pas. Quelle que soit la voie qui est choisie, j'aurais envie de dire qu'il faut une forme d'ascèse. Il faut une forme d'ascèse, c'est-à-dire qu'il faut, il y a besoin d'une aspiration. Il faut aspirer, c'est très important. Il faut ce désir, justement. Et puis, il y a un travail, il y a un labeur, il y a un effort. Il faut du temps. Et puis, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut entrer dans cette synergie entre l'Esprit Saint et notre volonté. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une ouverture à l'action de l'Esprit Saint. Et par rapport à cette dimension ascétique de ce chemin de transformation, j'aurais envie de dire que l'éco-spiritualité ou l'écologie chrétienne, c'est un chemin de croix. Alors, c'est pas très populaire, évidemment, de dire ça. J'ose le dire ici parce que je suis dans une communauté chrétienne. Mais évidemment, de nouveau, je reviens à ce que je disais tout au début, il faut évidemment pas du tout entendre la croix comme instrument de torture, mais la croix à la fois comme le lieu du paroxysme de l'amour, dans le sacrifice précisément de l'ego, et la croix comme ce lieu qui relie la terre et le ciel et qui est surtout le lieu d'une Pâque, le lieu d'un passage, et qui est en fait le passage de la vie marquée par la mort, la vie avec un petit V marquée par la mort, à la vie avec un grand V. C'est le passage justement, pour reprendre l'expression de Saint Paul, du vieil homme, hein, qui est en fait centré sur son ego, à en fait à l'homme nouveau, à l'homme christifié, qui lui est en fait centré, et qui est centré sur le « je suis hein, », sur le « je suis », donc qui passe de l'individu centré sur lui-même à la personne en relation et en communion. Alors, je pense qu'il y a plusieurs outils qui sont très importants pour cette ascèse. Et j'en renoue de nouveau obsession trinitaire, j'en mentionnerai trois. D'une part, évidemment, la prière, la méditation. D'autre part, le jeûne. Et troisièmement, le Shabbat. Trois éléments, justement, dont je pense qu'il faut découvrir, redécouvrir, et cultiver la dimension et les implications écologiques. Alors la prière et la méditation, là j'en dirai pas grand-chose, puisque j'ai pas grand-chose à vous apprendre, c'est le cœur de la vie de votre communauté, c'est le cœur de l'enseignement du père Lawrence. J'aimerais simplement mentionner deux points qui ont à voir avec la dimension cosmique de la méditation et de la prière. Le premier, je vous invite d'ailleurs cordialement à lire Les récits d'un pèlerin russe, qui est un petit texte, c'est pas long, hein, c'est un petit texte magnifique du 19e siècle, qui raconte justement les pérégrinations d'un pèlerin qui s'initie à la prière de Jésus, à la prière du cœur, dans la Russie du 19e siècle. Et il y a toute une série de passages où précisément, récitant, habité par cette prière, justement, avec cette prière, eh bien, il découvre, à travers cette prière, justement, la gloire cachée de Dieu dans la création. Il y a vraiment de très très beaux passages, et on voit là précisément une dimension cosmique de l'invocation du nom. Il y a un deuxième aspect qu'on peut découvrir dans un certain nombre de textes de la philokalie des qu'on appelle aussi la philokalie des pères neptiques. En fait, la philokalie, c'est un recueil de textes qui vont du 4e siècle au 14e siècle et qui sont des textes justement sur la vie ascétique et plus particulièrement sur la prière de Jésus et la prière du cœur et qui sont de toute une série d'auteurs, notamment de la tradition byzantine. Et donc, chez un certain nombre de ces auteurs, eh bien, on peut justement voir que dans cette invocation répétée du nom de Jésus-Christ, liée, hein, à vos répétitions, récitations liées à la respiration, eh bien, il montre qu'en réalité, l'air, hein, l'air qui est inspiré et qui est expiré en lien avec cette récitation, eh bien, en fait, devient le véhicule du souffle divin. Le véhicule du souffle divin qui se communique à l'être humain et en fait à toute la création, et qui donc devront faire un lieu de communion. Et puis évidemment, il faudrait, là on pourrait faire de grands développements, développer toute la dimension cosmique de l'Eucharistie, de la messe, de la liturgie, qui est à mon avis insuffisamment aujourd'hui mise en évidence, et qui aurait un potentiel énorme de sensibilisation écologique, justement non pas par le mental, ou des grands discours comme celui que je fais maintenant, mais par précisément une vie de prière communautaire. Il ne faut quand même pas oublier que le cœur de la messe eucharistique, c'est l'Eucharistie, c'est-à-dire, en fait, ce moment où l'on va communier au corps et au sang du Christ à travers du pain et du vin. C'est-à-dire, en réalité, des fruits, certes transformés par l'homme, mais qui sont des fruits de la création et qui deviennent précisément des véhicules d'énergie divine et qui font justement de l'Eucharistie un sacrement de la présence divine. Donc voilà pour la prière et la méditation. Le deuxième point, le jeûne. Alors, le jeûne, bien sûr, c'est quelque chose qui est important sur le plan de la santé, une dimension diététique, hein, très, très bienvenue du jeûne. Mais le jeûne a aussi un enjeu spirituel très important. Il ne faut pas oublier que le Christ, avant de commencer son ministère, il passe 40 jours dans le désert. Et d'ailleurs, il est poussé dans le désert par l'Esprit Saint. Il va jeûner pendant 40 jours dans le désert. D'ailleurs, il va précisément cohabiter avec les bêtes sauvages. On peut aussi dire que d'une certaine manière, à travers ça, il y a ce travail justement sur le cosmos intérieur. Et, Et en fait, il va surtout vaincre, résister, affronter et transformer ces trois tentations qui sont faites par le diabolos. Le diabolos, c'est symboliquement celui qui divise, et qui est d'ailleurs la source de toutes les divisions, aussi bien intérieures à l'être humain qu'entre les êtres humains. Et ces trois tentations, c'est précisément, si on en fait une lecture écologique, la tentation du matérialisme, la tentation d'une forme d'autodéification de l'homme, et la tentation de la domination et du pouvoir. Donc, c'est quand même pas anodin qu'avant même de commencer son ministère, eh bien, le Christ va jeûner pendant 40 jours. Alors, je crois que avec le jeûne, eh bien, évidemment, nous pouvons en réalité changer ou travailler à changer notre relation à la nature et à la création à travers un changement de notre relation à la nourriture qui vient précisément de la terre, de la nature et de la création, et aussi évidemment par un travail sur les ressorts intimes de l'acte de se nourrir, de l'acte de manger. Et précisément de faire de l'acte de manger pas simplement un acte de consommation utile, mais précisément un moment de contemplation et un moment de communion. Communion avec les autres, parce qu'il y a la dimension du repas, mais aussi communion avec cette terre sans laquelle nous n'aurions pas ce que nous avons dans notre assiette. Donc, en ce sens, à travers l'expérience du jeûne, la création ne devient pas simplement, par la nourriture qu'elle nous fournit, en fond, un moyen de satisfaire nos besoins, besoins physiques, besoins matériels, évidemment bien légitimes, mais devient un lieu de relation, un lieu de communion au divin et aux autres. Deuxième dimension du jeûne, je pense que c'est aussi un moyen de purification. Purification, vous savez, le grand poète William Blake parlait de nettoyer les organes de la perception, hein, les portes de la perception plus précisément. Et je crois que le jeûne peut contribuer à ça, comme la prière. Et là, j'aimerais vous citer simplement un texte d'un maître hassidique. Un maître hassidique qui s'appelle Rabbi Moshe, et qui, à un moment donné, fait une interprétation, vous savez, de ce passage de la Bible où il est dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. D'ailleurs, qui est repris par le Christ quand il répond au diable dans la tentation au désert, en disant « il se nourrira aussi de la parole ». Alors là, il fait une interprétation extrêmement intéressante par rapport à cette dimension, justement, éco-spirituelle, ou cette dimension de la nourriture comme lieu de communion au divin. Voilà ce qu'il dit, Rabbi Moshe. Ce n'est pas des éléments matériels du pain, donc les protéines, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme éléments nutritifs, ce n'est pas des éléments matériels du pain que l'homme reçoit sa vie, mais bien des étincelles de vie divine qui s'y trouvent contenues. Si vous voulez savoir où est Dieu, vous n'avez pas qu'à regarder ce pain. Il est là. C'est par sa vie et par son souffle vivifiant que toute chose subsiste. Qu'il se retire de l'une d'elles, elle tombe en pièces et s'anéantit. Et là, vous avez en fait une interprétation judaïque parfaite de l'Eucharistie. Et le troisième point, c'est l'impératif de justice, parce qu'évidemment, jeûner, c'est consommer un petit peu moins, et ça peut être vécu d'une manière qui permet de partager un peu plus avec ceux qui n'ont pas. Troisième dimension, le Shabbat, qui est, je pense, à revisiter. Parce que pour moi, une éco-spiritualité, c'est un des enjeux de l'éco-spiritualité, c'est aussi notre relation au temps. Et je crois qu'aujourd'hui, vous savez, on parle de monde désenchanté, de création désenchantée. C'est quoi le monde et la création désenchantée? C'est un monde qui ne chante plus. Et chanter, ça veut dire quoi? Chanter, c'est avoir un rythme, avec une respiration. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde s'essouffle. Et il s'essouffle parce que tout va trop vite. Il y a une déconnexion totale entre les rythmes du monde économique, et qui sont en fait les rythmes, et les rythmes de la nature, et qui sont en fait, je pense, les rythmes profonds, les biorhythmes profonds de l'être humain. Donc là, il y a un véritable enjeu par rapport à cette course au toujours plus vite hein, de ce système CPC en quête de rentabilité maximale et immédiate. Et là, je crois justement qu'il faut revisiter cette merveilleuse institution du Shabbat. Le septième jour, Dieu, qui a quand même fait un sacré boulot les six premiers jours, puisqu'il a créé le monde, eh bien, il se repose. Il chôme, hein, au chômage volontaire. Il reprend souffle, il respire. Hein. Et en fait, disent les maîtres juifs, ce faisant, il parachève sa création. En fait, il parachève la création en se reposant. Et non seulement il parachève, mais par son repos, il la sanctifie. Et le Shabbat, littéralement, ça veut dire cesser toute activité créatrice. Et en sens, au sens économique et écologique, ça veut donc dire pour nous, eh bien, qu'en réalité, nous sommes précisément invités à abandonner pour un moment notre activité créatrice, c'est-à-dire à lâcher prise et à abandonner notre droit et notre pouvoir sur la nature. Parce que toute l'activité économique, elle se fait en réalité sur la nature. Et le Shabbat, c'est aussi, c'est une autre dimension très importante, un processus de libération. Par le Shabbat, ce qui est symbolisé, c'est la sortie d'Égypte. Donc le lieu de l'esclavage, la sortie d'Égypte du peuple juif. Et là, je pense que c'est une extraordinaire invitation à nous déconnecter pour un moment de nos machines, portables, téléphones, iPad, iPod, en fait, je ne sais pas tout quoi, hein, nous déconnecter, sortir en fait de cette frénésie du faire, et justement pour nous reconnecter en profondeur à autre chose, à une autre dimension, à un autre rythme qui est celui de la nature et qui est celui de la vie. Donc voilà quelques éléments de ce travail de transformation intérieure. Et dans cette boucle, pour moi qui est une boucle qui m'est chère entre transformation intérieure et transformation extérieure, transformation de soi et transformation du monde, où la transformation intérieure est première, hein, c'est le levier, mais à un moment donné, on entre dans une mise en boucle, hein, dans une spirale, dans une dynamique. Eh bien, je pense que la transformation extérieure et tout le mode d'être, hein, là on n'est pas, tout ce que j'ai décrit, ça conduit à un mode d'être. On parle d'un éthos, et un éthos c'est un mode d'être, c'est pas tout à fait la même chose qu'une éthique, hein, mais un éthos, un mode d'être incarné. Eh bien, en réalité, ne prend pour moi toute sa plénitude de sens et toute sa fécondité que si il s'articule et il se traduit dans des actes, dans des engagements concrets, citoyens, solidaires, au quotidien, des activités au quotidien, dans la vie au quotidien. Il faut que ça prenne corps, que ça prenne corps dans des pratiques. Et cela sur tous les plans, le plan personnel, le plan familial, le plan ecclésial, le plan politique, le plan d'une communauté comme la vôtre, tous les plans. Hein. Et là, eh bien, je pense même que nous pouvons retrouver ce dont le père Lawrence parlait ce matin, quand il disait à quel point il évoquait en fait la parabole du jugement dernier, hein, quand le Christ dit justement « ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait », et donc justement, il faut aller visiter les prisonniers, nourrir les affamés, habiller les dévêtus, etc. Bon, ça c'est très concrètement, mais aujourd'hui ça s'incarne aussi par rapport à des engagements écologiques. Et là, je ferai le lien avec un certain nombre, notamment de penseurs de la théologie de la libération latino-américaine, qui disent qu'aujourd'hui, ce nouveau pauvre opprimé, captif, sans voix, auquel nous devons donner la voix, c'est la nature. Et si on pousse vraiment jusqu'au bout ce que j'ai dit hier par rapport à la dimension cosmique de l'incarnation du Christ, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si véritablement la nature est lieu de la présence du Christ, on pourrait peut-être aussi appliquer ça. Alors là, théologiquement, je vais évidemment très loin, mais comme le disait un évêque père spirituel très cher, de toute manière, la vraie et bonne théologie se fait toujours à la frontière de l'hérésie, donc je prends ce risque-là. Eh bien, évidemment, on pourrait aussi aller jusque-là de dire que peut-être c'est aussi au Christ que l'on porte atteinte quand on porte atteinte à sa création. Et là, en fait, de facto, nous retrouvons l'écologie extérieure dont j'ai parlé hier. Mais nous la retrouvons différemment, parce que ancrée ailleurs dans l'être, et donc aussi parce que prenant une autre dimension et un autre sens, une portée beaucoup plus large. Et là, le respect et l'amour de la création eh bien, deviennent, j'aurais envie de dire, partie organique de notre être et de notre vie, partie intégrante de notre existence. C'est-à-dire qu'elle devient, l'engagement écologique devient, et les actes écologiques au quotidien deviennent fonction d'une nécessité intérieure, et plus simplement d'une forme d'obligation morale ou de normes éthiques. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils deviennent une évidence. Une évidence et plus simplement le fruit d'un effort parfois un peu laborieux et un peu fatigant à la longue. C'est vrai que c'est fatigant de recycler ses déchets, de s'informer tout le temps sur ce qu'on va acheter, etc., etc. Donc, voilà. Et je dirais que finalement, eh bien, ce qui nous est donné comme modèle à travers non seulement l'Évangile, la Bible, mais aussi à travers tous les textes sacrés, c'est évidemment un chemin vers une forme de sagesse pratique. Et je dirais le sage des traditions ou le saint de la tradition chrétienne, eh bien, il ne fait pas des actes, ou il ne pose pas des actes écologiques parce qu'il le faut, en fonction d'une situation X ou Y qui est aujourd'hui effectivement urgente, mais il le fait en réalité parce qu'il est un, parce qu'il est dans une unité avec, et dans une unité de communion et d'amour avec la création et avec Dieu qui habite en elle. Et en fait, il voit qu'elle habite en elle parce qu'elle sent et il fait l'expérience que Dieu habite en lui. Et au fond, voilà le chemin auquel je vous invite, auquel je nous invite, et qui me semble être justement la substantifique moelle de ce que j'ai essayé de définir par l'éco-spiritualité. Merci de votre attention.